From the conference center at Temple Square in Salt Lake.
Ici, le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la 180e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Dieter F. Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Mes chers frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue ce matin à la quatrième session de la 180e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous saluons ceux d'entre vous qui sont dans le centre de conférence et dans les centres de pieux, ou qui suivent cette session dans le monde entier, à la radio, à la télévision, sur l'Internet ou par satellite. Nous saluons les autorités générales et les présidences générales des auxiliaires qui assistent à cette conférence. La musique de cette session est interprétée par le chœur du Tabernacle, sous la direction de Mac Wilberb, avec Clay Christiansen et Richard Elliott à l'orgue. Le chœur a ouvert cette session en chantant « Éternelle vérité » et va maintenant interpréter « Ô Créateur, ô Jéhovah ». Ensuite, Gérald Cossé, des 70, fera la prière d'ouverture.
Our dear Father in heaven, Cher Père Céleste, notre cœur est plein de joie, en particulier ce matin de conférence. Il y a de la joie dans cette grande assemblée de saints qui écoute la conférence et dans le monde entier. Nous exprimons notre profonde reconnaissance de la connaissance que nous partageons, que nous avons de la rédemption divine, du Sauveur, du Rédempteur du monde. Nous sommes profondément reconnaissants de la vérité qui a été mise de nouveau à la disposition des hommes sur la terre grâce au rétablissement. Nous exprimons notre reconnaissance pour le prophète vivant que nous aimons et soutenons. Nous te demandons de bénir lui et sa famille, tous ceux qui œuvrent avec lui dans cette œuvre divine. Et au début de cette session de conférence, nous te prions pour tous ceux qui prendront la parole, afin qu'ils soient remplis de ton esprit. Nous te prions pour nous qui recevrons leurs paroles, afin que nous écoutions d'un cœur sincère et fervent, afin de mettre en pratique l'enseignement. Que nous soyons remplis d'humilité, que ceux qui ont besoin de consolation reçoivent la consolation, que ceux qui recherchent la vérité trouvent des réponses à leurs questions. Nous te prions de faire que nous soyons témoins du nom de ton Fils partout où nous allons. Nous te demandons humblement ces bénédictions au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Notre premier orateur ce matin sera Henry B. Eyring, premier conseiller dans la première présidence. Il sera suivi par le chœur qui chantera « Au berger, elles sont chères ». Après ce cantique, Boyd K. Packer, président du Collège des Douze Apôtres, nous adressera la parole. Après quoi, nous entendrons J. E. Jensen de la présidence des 70.
Mes chers frères et sœurs, c'est un honneur de vous adresser la parole en ce jour de sabbat. C'est avec la conscience de ma faiblesse que je m'adresse à des millions de saints des derniers jours et de nos amis dans le monde entier. Pour me préparer à cette occasion sacrée, j'ai prié et j'ai médité pour connaître vos besoins personnels et le message que le Seigneur veut que je donne. Vos besoins sont grands et variés. Chacun de vous est un enfant de Dieu à part entière. Il vous connaît individuellement. Il envoie des messages d'encouragement, de réprimande et de conseil qui correspondent à votre situation et à vos besoins. Pour découvrir ce que Dieu voudrait que j'ajoute à cette conférence, j'ai lu les messages de ses serviteurs dans les Écritures et dans les rapports des conférences passées. J'ai reçu une réponse à ma prière quand j'ai lu les paroles d'Alma, grand serviteur du Seigneur, dans le livre de Mormon. Je cite, « Oh, que je voudrais être un ange et satisfaire le souhait de mon cœur, d'aller et de parler avec la trompette de Dieu, d'une voix qui fait trembler la terre et d'appeler tous les peuples au repentir. Oui, j'annoncerai à toute âme, comme avec la voix du tonnerre, le repentir est le plan de rédemption, afin qu'elle se repente et vienne à notre Dieu, afin qu'il n'y ait plus de tristesse sur toute la surface de la terre. Mais voici, je suis un homme, et je pêche dans mon souhait, car je devrais me contenter des choses que le Seigneur m'a assignées. » Fin de citation. Puis j'ai trouvé dans les réflexions d'Alma la direction pour laquelle j'avais prié. Je cite, « Car voici, le Seigneur accorde à toutes les nations des gens de leur propre nation et de leur propre langue pour enseigner sa parole, oui, avec sa sagesse, tout ce qu'il juge bon qu'elles aient. C'est pourquoi nous voyons que le Seigneur instruit avec sagesse, selon ce qui est juste et vrai. Fin de citation. En lisant ce message d'un serviteur de Dieu, ma tâche pour aujourd'hui est devenue claire. Dieu envoie à ses enfants des messages et des messagers autorisés. Je dois renforcer suffisamment la confiance en Dieu et en ses serviteurs pour que nous allions de l'avant et obéissions à ses recommandations. Il veut cela parce qu'il nous aime et veut notre bonheur. Il sait qu'un manque de confiance en lui apporte la tristesse. Ce manque de confiance a apporté de la tristesse aux enfants de notre Père Céleste dès avant la création du monde. Nous savons, grâce aux révélations de Dieu données à Joseph Smith le prophète, que dans le monde prémortel, beaucoup de nos frères et sœurs ont rejeté le plan de notre condition mortelle exposé par notre Père Céleste et son Fils aîné, Jéhovah. Nous ne connaissons pas toutes les raisons qui ont fait que Lucifer a eu tant de succès dans cette incitation à la rébellion. Cependant, l'une des raisons est claire. Les esprits qui ont perdu la bénédiction de venir dans la condition mortelle ont manqué d'une confiance suffisante en Dieu pour éviter le malheur éternel. Le triste schéma du manque de confiance en Dieu s'est répété depuis la création. Je vais faire attention en donnant des exemples de la vie d'enfants de Dieu parce que je ne connais pas toutes les raisons du manque de foi qui les a poussés à ne pas lui faire assez confiance. Beaucoup d'entre vous ont étudié les moments de crise qu'ils ont eus. Jonas, par exemple, a non seulement rejeté le message du Seigneur qui lui disait d'aller à Ninive, mais il n'est même allé dans la direction opposée. Naaman n'a pas fait confiance aux directives du prophète, du Seigneur, de se laver dans un fleuve pour permettre au Seigneur de le guérir de sa lèpre, pensant que cette action toute simple n'était pas digne de lui. Le Sauveur a invité Pierre à quitter la sécurité d'une barque pour marcher vers lui sur l'eau. Lorsque nous écoutons ce récit, nous compatissons et nous comprenons à quel point il est nécessaire d'avoir nous-mêmes plus confiance en Dieu. Je cite, « À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur l'eau, sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Et Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ce qui est encourageant pour nous, c'est que Pierre a appris à faire assez confiance au Seigneur pour rester fidèlement à son service jusqu'à son martyre. Dans le livre de Mormon, le jeune Néphi suscite en nous le désir d'acquérir la confiance au Seigneur pour obéir à ses commandements, aussi difficiles qu'ils nous paraissent. Néphi était face à des dangers et risquait même sa vie quand il a dit ces paroles de confiance que nous pouvons et devons constamment ressentir. J'irai et je ferai la chose que le Seigneur a commandée, car je sais que le Seigneur ne donne pas de commandement aux enfants des hommes sans leur préparer la voie pour qu'ils puissent accomplir ce qu'il leur commande. Cette confiance vient de la connaissance de Dieu. Plus que tout autre peuple sur terre, nous avons ressenti, grâce aux événements glorieux du rétablissement de l'Évangile, la paix que le Seigneur offre à son peuple par ses mots. Soyez calmes et sachez que je suis Dieu. J'ai le cœur rempli de gratitude pour ce que Dieu a révélé sur lui-même afin que nous ayons confiance en lui. Pour moi, cela a commencé en 1820 par un jeune garçon dans un bosquet non loin d'une ferme de l'État de New York. Ce garçon, Joseph Smith fils, a marché parmi les arbres jusqu'à un endroit isolé. Il s'est agenouillé avec une confiance complète que Dieu répondrait à sa supplication concernant ce qu'il devait faire pour être purifié et sauvé par l'expiation de Jésus-Christ. Chaque fois que je lis son récit, ma confiance en Dieu et en ses serviteurs s'accroît. Je cite, « Je vis exactement au-dessus de ma tête une colonne de lumière, plus brillante que le soleil, descendre peu à peu jusqu'à tomber sur moi. À peine était-elle apparue que je me sentis délivré de l'ennemi qui m'enserrait. Quand la lumière se posa sur moi, je vis deux personnages dont l'éclat et la gloire défient toute description et qui se tenaient au-dessus de moi dans les airs. L'un d'eux me parla, m'appelant par mon nom et dit, en me montrant l'autre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoute-le. » Le Père nous a révélé qu'il vit, que Jésus-Christ est son fils bien-aimé et qu'il nous a aimés assez pour envoyer ce Fils nous sauver, nous, ses enfants. Et parce que j'ai le témoignage qu'il a appelé un garçon sans instruction, comme apôtre et prophète, je fais confiance à ses apôtres et à ses prophètes aujourd'hui et aux personnes qu'ils appellent à servir Dieu. Cette confiance a été une bénédiction dans ma vie et dans celle des membres de ma famille. Il y a des années, j'ai entendu un discours d'Ezra Benson lors d'une conférence comme celle-ci, un dimanche. Il nous a recommandé de faire tout notre possible pour payer nos dettes et ne plus nous endetter. Il a mentionné les emprunts immobiliers. Il a dit que ce ne serait peut-être pas possible, mais que ce serait mieux si nous pouvions rembourser toute notre hypothèque. Après la réunion, je me suis tourné vers ma femme et je lui ai demandé « Est-ce que tu penses qu'il y a un moyen de faire ça ?» Au début, nous n'avons pas trouvé. Puis, vers le soir, j'ai pensé à une propriété que nous avions acquise dans un autre état. Cela faisait des années que nous essayions de la vendre sans succès. Mais parce que nous avions confiance en Dieu et aux quelques paroles prononcées par l'un de ses serviteurs au milieu de son discours, nous avons appelé le lundi matin l'homme qui, à San Francisco, s'occupait de vendre notre bien. Je l'avais appelé quelques semaines auparavant et il avait alors dit « Ça fait des années que personne ne s'est montré intéressé par votre propriété. » Mais le lundi qui a suivi la conférence, j'ai entendu une réponse qui, jusqu'à ce jour, renforce ma confiance en Dieu et en ses serviteurs. Il a dit « Je suis étonné que vous m'appeliez. » Un homme est venu aujourd'hui et a demandé s'il pouvait acheter votre bien. Alors je lui ai demandé combien en a-t-il proposé. C'était quelques dollars de plus que le total de notre hypothèque. Certains pourraient dire que ce n'était qu'une coïncidence, mais nous avons remboursé notre emprunt et notre famille recherche toujours dans les messages des prophètes les paroles qui pourraient être envoyées pour nous dire ce que nous devons faire pour trouver la sécurité et la paix que Dieu veut que nous ayons. Pareille confiance en Dieu peut apporter des bénédictions aux collectivités comme aux familles. J'ai grandi dans une petite ville du New Jersey, moins de 20 membres assistaient régulièrement aux réunions de notre branche de l'Église, et il y avait parmi eux une femme d'un certain âge, convertie très humble. Elle avait immigré et parlait avec un fort accent norvégien. Elle était le seul membre de l'église de sa famille et le seul membre de l'église dans la ville où elle habitait. Par l'intermédiaire de mon père, qui était président de branche, le Seigneur l'avait appelée comme présidente de la société de secours de la branche. Elle n'avait pas de manuel pour lui dire ce qu'elle devait faire. Aucun autre membre de l'Église ne vivait près de chez elle. Elle savait seulement que le Seigneur se souciait des personnes dans le besoin et que la devise de la société de secours était « La charité ne périt jamais ». Nous étions au plus fort de ce que nous avons appelé la Grande Dépression. Des milliers de personnes n'avaient ni travail, ni abri. Donc, estimant qu'elle avait son mandat du Seigneur, elle a demandé des vêtements usagés à ses voisins. Elle les a lavés, repassés, puis mis dans des cartons sous la véranda, à l'arrière de la maison. Quand des hommes sans argent avaient besoin de vêtements et demandaient de l'aide à ses voisins, ces derniers leur disaient « Allez à la maison là-bas, la dame qui y habite est mormone et elle vous donnera ce dont vous avez besoin. » Le Seigneur ne dirigeait pas la ville, mais il en a amélioré une partie. Il a appelé une petite bonne femme qui lui faisait assez confiance pour découvrir ce qu'il voulait qu'elle fasse, puis le faire. Grâce à sa confiance au Seigneur, elle a pu aider dans cette ville des centaines d'enfants de notre Père Céleste dans le besoin. Cette même confiance en Dieu peut être une bénédiction pour les nations. Je sais, par expérience personnelle, que nous pouvons avoir confiance que Dieu tiendra la promesse faite dans Alma que le Seigneur accorde à toutes les nations des gens de leur propre nation et de leur propre langue pour enseigner sa parole, oui, avec sa sagesse, tout ce qu'il juge bon qu'elles aient. Dieu ne gouverne pas les nations, mais il se soucie d'elles. Il peut placer à des postes d'influence, des personnes qui veulent ce qu'il y a de mieux pour le peuple et qui font confiance au Seigneur. Et c'est ce qu'il fait. Je l'ai vu lors de mes voyages à travers le monde, dans une ville de plus de 10 millions d'habitants. J'ai parlé au sein des derniers jours, rassemblés par milliers lors d'une conférence. Elle avait lieu dans un grand stade. Avant le début de la réunion, j'ai remarqué un beau jeune homme assis au premier rang. Autour de lui se trouvaient des personnes qui, comme lui, étaient mieux habillées que la plupart des gens qui les entouraient. J'ai demandé à l'autorité générale de l'église qui se trouvait près de moi qui étaient ces hommes. Ce frère m'a chuchoté que c'était le maire de la ville et ses collaborateurs. Lorsque je me suis dirigé vers ma voiture, j'ai été surpris de voir le maire, entouré de son équipe, qui m'attendait pour me saluer. Il s'est avancé, m'a tendu la main et a dit, je cite, « Merci d'être venu dans notre ville et dans notre pays. Nous vous sommes reconnaissants de ce que vous faites pour fortifier vos membres. Avec des personnes et des familles comme celle-ci, nous pourrions instaurer l'entente et la prospérité que nous voulons pour notre peuple. » À ce moment-là, j'ai vu qu'il faisait partie des gens honnêtes que Dieu place en position d'autorité parmi ses enfants. Nous représentons une toute petite minorité parmi les habitants de cette grande ville. Ce maire connaissait peu notre doctrine et peu de nos membres. Cependant, Dieu lui avait envoyé le message que les saints des derniers jours, tenus par l'alliance de faire confiance au Seigneur et à ses serviteurs autorisés, deviendraient une lumière pour son peuple. Je connais les serviteurs de Dieu qui s'adresseront à vous lors de cette conférence. Ils sont appelés de Dieu pour donner des messages à ses enfants. Le Seigneur a dit à leur sujet, « Ce que moi, le Seigneur, ai dit, je l'ai dit et je ne m'en excuse pas. Et même si les cieux et la terre passent, ma parole ne passera pas, mais s'accomplira entièrement, que ce soit par ma voix ou par la voix de mes serviteurs. » C'est la même chose. Vous montrez votre confiance en lui lorsque vous écoutez avec l'intention d'apprendre, de vous repentir, puis d'aller et de faire tout ce qu'il demande. Si vous faites assez confiance à Dieu pour découvrir son message dans chaque discours, chaque chant et chaque prière de cette conférence, vous le trouverez. Puis, si vous allez et faites ce qu'il veut que vous fassiez, votre capacité de lui faire confiance augmentera et, avec le temps, vous serez rempli de reconnaissance en découvrant qu'il vous fait confiance. Je témoigne que Dieu parle aujourd'hui par l'intermédiaire des serviteurs qu'il a choisis dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas S. Monson est, le prophète de Dieu. Notre Père Céleste et son Fils, Jésus-Christ, vive et nous aime. J'en témoigne. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Cette conférence générale se tient à un moment où règne une telle confusion et tellement de dangers que nos jeunes se demandent quelle voie emprunter. Avertis par les révélations qu'il en serait ainsi, les prophètes et les apôtres ont toujours indiqué ce qu'il fallait faire. Le Seigneur a révélé à Joseph Smith, le prophète, que chacun parle au nom de Dieu, le Seigneur, le Sauveur du monde. Quand elles ont été rétablies, les clés ont permis à l'autorité de la prêtrise d'être présente dans chaque foyer qui compte un grand-père, un père, un fils. Il y a 15 ans, dans un monde perturbé, la première présidence et le Collège des douze apôtres ont publié La famille, déclaration au monde, cinquième déclaration de l'histoire de l'Église. Elle est, selon la définition scripturaire, considérée comme une révélation. Un guide que les membres de l'Église ont tout intérêt à lire et à suivre. Elle dit entre autres, nous, première présidence et conseil des douze apôtres de l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours, déclarons solennellement, que le mariage de l'homme et de la femme est ordonné de Dieu et que la famille est essentielle au plan du Créateur pour la destinée éternelle de ses enfants. Les dieux descendirent organiser l'homme à leur image, le former à l'image des dieux, former l'homme et la femme. Et les dieux dirent, nous les bénirons et nous les rendrons féconds et nous les ferons multiplier, remplir la terre et la assujettir. Ce commandement n'a jamais été abrogé. Nous les mettrons ainsi à l'épreuve pour voir s'ils feront tout ce que le Seigneur, leur Dieu, leur commandera. Le but est que nous soyons heureux, car les hommes sont pour avoir la joie. Lehi a enseigné que les hommes sont libres et doivent être libres pour agir par eux-mêmes et non pour être contraints, si ce n'est par le châtiment de la loi au grand et dernier jour. Le vieux dicton, le Seigneur vote pour moi, Lucifer vote contre moi, mais c'est mon vote à moi qui compte, décrit la certitude doctrinale que notre libre arbitre est plus fort que la volonté de l'adversaire. Le libre arbitre est précieux. Nous pouvons le céder stupidement et aveuglément, mais personne ne peut nous le retirer de force. Nous connaissons cette excuse séculaire. C'est le diable qui me l'a fait faire. Il n'en est rien. Il peut vous tromper et vous égarer, mais il n'a pas le pouvoir de vous forcer, ni vous ni personne, à tomber dans la transgression, ni de vous contraindre et rester. Le pouvoir qui nous a été donné de créer la vie s'accompagne des joies les plus grandes et des tentations les plus dangereuses. Le don de la condition mortelle et la capacité de susciter la vie sont bénédictions célestes. Quand nous exerçons ce pouvoir avec justice, nous pouvons nous rapprocher, plus que par toute autre chose, de notre Père Céleste qui goûtait à une plénitude de joie. Ce pouvoir n'est pas une partie secondaire du plan du bonheur. Il en est la clé même. Le fait d'utiliser ce pouvoir comme les lois éternelles l'exigent et d'en rejeter le but divin déterminera éternellement ce que nous deviendrons. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il y a quelque chose de très libérateur quand une personne décide de sa propre volonté d'obéir à notre Père et notre Dieu et qu'elle lui exprime cette volonté dans la prière. Quand nous obéissons, nous pouvons jouir de ces pouvoirs dans l'alliance du mariage. Notre fontaine de vie jailliront nos enfants, notre famille. l'amour entre mari et sa femme peut être constant et apporter au conjoint épanouissement et satisfaction tous les jours de leur vie. Si quelqu'un est privé de ses bénédictions, de la condition mortelle, il a la promesse de les recevoir dans le monde à venir. L'amour pur présuppose que ce n'est qu'après avoir pris l'engagement d'une fidélité éternelle, après être passé par une cérémonie légitime et légale, et idéalement après l'ordonnance de scellement dans le temple, que l'on peut libérer ses pouvoirs de donner la vie pour les exprimer complètement. Ils doivent être utilisés uniquement entre un homme et une femme, entre un mari et sa femme, avec notre conjoint éternel. L'Évangile est très clair sur ce point. Nous sommes libres d'ignorer les commandements, mais quand la révélation utilise des termes aussi étrangers que « tu ne feras pas », il vaut mieux pour nous y prêter attention. L'adversaire est jaloux de tous ceux qui ont le pouvoir d'engendrer la vie. Satan ne peut pas procréer, il est impuissant. Il cherche à rendre tous les hommes malheureux comme lui. Il cherche à avilir l'utilisation juste du pouvoir de donner la vie en vous poussant à avoir des relations immorales. Le Seigneur a utilisé l'expression « est semblable à » pour susciter une image que ses disciples pouvaient comprendre, comme le royaume des cieux est semblable à un marchand. Le royaume des cieux est semblable à un filet. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. De nos jours, l'influence terrible de la pornographie est semblable à un fléau qui balaie le monde, contaminant ici et là, essayant inexorablement d'envahir chaque foyer, le plus fréquemment par le mari et père. Les effets de ce fléau peuvent être mortels sur le plan spirituel. Et le sont malheureusement souvent. Lucifer cherche à perturber le grand plan de rédemption, le grand plan du bonheur. La pornographie repousse toujours l'esprit du Christ et interrompt la communication entre notre Père Céleste et ses enfants et perturbe la tendre relation entre mari et femme. La prêtrise contient un pouvoir parfait. Elle peut vous protéger du fléau de la pornographie. Et c'est un fléau si vous succombez à son influence. À celui qui est obéissant, la prêtrise peut montrer comment se débarrasser d'une habitude et même gommer une dépendance. Les détenteurs de la prêtrise ont cette autorité et doivent s'en servir pour chasser les mauvaises influences. Nous tirons la sonnette d'alarme et nous prévenons les membres de l'Église qu'ils doivent se réveiller et comprendre ce qui est en train de se produire. Parents, soyez vigilants, toujours attentifs, de peur que ce mal ne menace votre cercle familial. Nous enseignons une règle de conduite morale qui nous protège des nombreux produits de remplacement ou contrefaçon du mariage proposé par Satan. Vous devez comprendre que toute incitation à vous lancer dans une relation qui n'est pas en accord avec les principes de l'Évangile est nécessairement mauvaise. Le livre de Mormon nous apprend que la méchanceté n'a jamais été le bonheur. Il en est qui croient qu'ils sont préprogrammés et qu'ils ne peuvent pas surmonter ce qu'ils considèrent comme des tendances innées à ce qui est impur ou qui n'est pas naturel. Il n'en est rien. Pourquoi notre Père Céleste infligerait-il chose pareille à quelqu'un ? Souvenez-vous qu'il est notre Père. Paul a promis que Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Vous pouvez, si tel est votre désir, vous débarrasser des habitudes et surmonter une dépendance et vous éloigner de ce qui n'est pas digne d'un membre de l'Église. Comme Alma nous en avertit, nous devons veiller et prier continuellement. Ésaïe nous a adressé cette mise en garde. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Il y a des années, je me suis rendu dans une école d'Albuquerque. L'institutrice m'a parlé d'un jeune qui avait apporté un chaton en classe. Comme vous pouvez l'imaginer, ça a tout interrompu. Elle a demandé à l'enfant de montrer aux autres. Tout s'est bien passé jusqu'à ce qu'un enfant demande « C'est un garçon ou une fille ?» Ne voulant pas s'engager dans ce sujet, l'institutrice a dit « Ce n'a pas d'importance, ce n'est qu'un chaton. » Mais ils ont insisté. Finalement, un enfant a dit « Je sais à quoi on le voit. » Résigné, l'institutrice a dit « À quoi ?» L'élève a répondu « On n'a qu'à voter. » Cette histoire peut faire rire, mais si nous ne sommes pas vigilants, il y a aujourd'hui des gens qui non seulement tolèrent, mais recommandent que l'on vote pour faire changer les lois dans le but de légaliser l'immoralité. Comme si un vote pouvait modifier les desseins des lois de Dieu et la nature. Une loi contre nature serait impossible à imposer. Par exemple, pensez-vous qu'un vote abrogeant la loi de la pesanteur servira à quoi que ce soit ? Il y a des lois morales et physiques irrévocablement décrétées dans les cieux avant la fondation de ce monde qui ne peuvent être changées. L'histoire a prouvé maintes et maintes fois que les principes moraux ne peuvent pas être changés par la force ni par le vote. La légalisation de ce qui est fondamentalement erroné ou mauvais n'empêchera pas la souffrance et les châtiments qui s'ensuivront. On sait sûrement que la nuit succède au jour. Quelle que soit l'opposition, nous sommes déterminés à tenir bon. Nous resterons fidèles aux principes, aux lois et aux ordonnances de l'Évangile. Si elles sont mal comprises, que ce soit innocemment ou délibérément, qu'il en soit ainsi. Nous ne pouvons pas changer, nous ne changerons pas. Nous perdons très vite notre chemin quand nous désobéissons aux lois de Dieu. Si nous ne protégeons pas et n'encourageons pas la famille, la civilisation et nos libertés périront immanquablement. Moi, le Seigneur, je suis lié lorsque vous faites ce que je dis. Lorsque vous ne faites pas ce que je dis, vous n'avez pas de promesse. Chaque âme confinée dans la prison du péché, de la culpabilité, de la perversion, possède la clé de la porte. La clé s'appelle le repentir. Vous savez comment utiliser cette clé ? L'adversaire n'a pas d'emprise sur vous. Les principes jumeaux que sont le repentir et le pardon dépassent en force le pouvoir redoutable du tentateur. Si vous êtes lié par une habitude ou une dépendance indigne, vous devez cesser toute conduite néfaste. Des anges vous prépareront et les dirigeants de la prêtrise vous guideront à travers ces moments difficiles. On ne voit nulle part une plus grande manifestation de la générosité, de la tendresse et de la miséricorde de Dieu que dans le repentir. Avez-vous conscience de la perfection du pouvoir purificateur de l'expiation accompli par le Fils de Dieu, notre Sauveur, notre Rédempteur ? Il a dit, « Moi, Dieu, j'ai souffert ces choses pour tous, afin qu'ils ne souffrent pas s'ils se repentent. » Dans cet acte divin d'amour, le Sauveur a payé la réparation de nos péchés, afin que nous n'ayons pas à le faire. Pour ceux qui le désirent réellement, il y a effectivement un moyen de s'en sortir. Le repentir est comme un détergent. Même les taches incrustées du péché s'en iront. Les détenteurs de la prêtrise portent en eux l'antidote qui ôte les images terribles de la pornographie et qui fait disparaître la culpabilité. La prêtrise détient le pouvoir de délivrer de l'emprise des habitudes, de briser les chaînes de la dépendance, quelle que soit la force de son étreinte. Elle peut guérir les cicatrices de fautes passées. Parmi toutes les révélations, je ne connais pas de parole plus belle ni plus réconfortante que celle-ci. Celui qui s'est repenti de ses péchés est pardonné. Et moi, le Seigneur, je ne m'en souviens plus. Parfois, même après que l'on s'est confessé et qu'on a payé le prix, la partie la plus difficile du repentir, c'est de se pardonner à soi-même. Il faut apprendre que pardon veut dire pardon. Toutes les fois que mon peuple se repentira, je lui pardonnerai ses offenses envers moi. Joseph Fielding Smith a raconté l'histoire d'une femme repentante qui luttait pour se sortir d'une vie très immorale. Elle lui demandait ce qu'elle devait faire dorénavant. Il lui a demandé de lui lire dans l'Ancien Testament le récit de Lot et de la femme de Lot qui fut changée en statue de sel. Ensuite, il a demandé « Quel enseignement tirez-vous de ces versets ?» Elle répondit « Le Seigneur détruira les méchants. » « Pas du tout, dit le président Smith à cette femme repentante. L'enseignement qui vous est destiné est « Ne regardez pas en arrière. » Aussi étrange que cela paraisse, il est probable que le remède, la prévention les plus puissants contre la pornographie ou n'importe quel autre acte impur, sont d'ignorer et de l'éviter. Effacez de votre esprit toute pensée indigne qui essaie de prendre racine. Une fois que vous avez décidé de rester pur, vous affirmez le libre arbitre que Dieu vous a donné. Puis, comme l'a conseillé le président Smith, ne regardez pas en arrière. Je promets que la paix et le bonheur vous attendent, vous et votre famille. La finalité même de tout ce qui se fait dans l'Église est qu'un homme, sa femme et leurs enfants soient heureux dans leur foyer. Je prie, Seigneur, de vous bénir dans vos efforts pour vous libérer de ce terrible fléau et de vous saisir du pouvoir de la prêtrise qui vous est disponible. Je rends témoignage de ce pouvoir au nom de Jésus-Christ. Amen.
J'étais en mission depuis environ un an. Lorsqu'en lisant les Écritures et les paroles des apôtres modernes sur la révélation et le Saint-Esprit, je me suis aperçu que je n'avais pas mon propre témoignage, particulièrement du Père et du Fils. J'étais parti en mission, m'appuyant sur le témoignage de mes merveilleux parents. N'ayant jamais mis en doute leurs paroles, je n'avais pas pensé à rechercher mon propre témoignage spirituel. Un soir de février 1962 à San Antonio, au Texas, j'ai su que je devais savoir par moi-même. Dans notre petit appartement, j'ai trouvé un endroit où je pourrais prier tranquillement, suppliant haute voix. « Père Céleste, es-tu là? Il faut que je sache par moi-même. » Plus tard, ce soir-là, j'ai su par moi-même, pour la première fois de ma vie, que Dieu et Jésus sont réels. Je n'ai pas entendu de voix audible ni vu d'être céleste. J'ai su de la même façon que vous aussi l'avez sans doute su, par le don ineffable du Saint-Esprit et l'Esprit de révélation, apaisant mon esprit et donnant l'assurance à mon cœur. Depuis cette expérience, j'ai été témoin des résultats du conseil d'Alma d'éveiller et donner de l'essor à mes facultés jusqu'à faire l'expérience de ces paroles. Ces paroles ou semences sont devenues des arbres, même des arbres géants de témoignages. Alimentés par davantage l'expérience de la parole, le processus continue, produisant des arbres de témoignages supplémentaires, ce qui maintenant constitue une véritable forêt édifiée sur la révélation du Saint-Esprit. Quand il a visité l'Amérique, le Sauveur a appelé 12 disciples. L'un des messages qu'il leur a remis, ainsi qu'aux personnes présentes, concernait le Saint-Esprit. Après les avoir instruits, le Sauveur est parti et a promis de revenir le lendemain. Toute la nuit, le peuple s'est efforcé de rassembler le plus grand nombre possible de personnes pour qu'elles viennent l'entendre. Les disciples ont réparti le peuple en 12 groupes pour leur enseigner ce que le Sauveur leur avait appris. Leur enseignement principal a été l'importance du Saint-Esprit. Puis les gens se sont agenouillés et ils ont prié. Le désir de leur cœur était de recevoir le Saint-Esprit. Le Sauveur leur est apparu et a souligné l'importance du Saint-Esprit quand il a prié le Père. Père, je te remercie de ce que tu as donné le Saint-Esprit à ceux-ci que j'ai choisis. Père, je te prie pour que tu donnes le Saint-Esprit à tous ceux qui croiront en leurs paroles. Sur la base de cet événement du Livre de Mormon, je comprends mieux pourquoi le président Woodruff a dit, je cite, « Le don du Saint-Esprit est le plus grand don qui puisse être accordé à l'homme. Il n'est pas limité aux hommes, ni aux apôtres, ni aux prophètes. Il appartient à tout homme et à toute femme fidèle et à tout enfant suffisamment âgé pour recevoir l'Évangile du Christ. » Fin de citation. Le Saint-Esprit est le troisième membre de la divinité et, avec le Père et le Fils, il connaît toutes choses. Il a plusieurs rôles importants, dont le plus grand est d'enseigner et de témoigner du Père et du Fils. Aussi, il révèle la vérité de toutes choses et conduit à faire le bien. Le président Monson illustre ce rôle important d'être conduit à faire le bien. Il suit l'exemple du Sauveur qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Il a enseigné l'importance de ne pas ignorer un murmure spirituel venant du Saint-Esprit, de rendre visite à quelqu'un, de le servir et de secourir une personne bien précise. Mais parfois, il n'y a personne comme le président Monson, aucun instructeur au foyer, aucune sœur manifestant de la sollicitude qui soit disponible pour intervenir en temps de besoin. Dans ce genre de situation, j'ai trouvé consolation et direction auprès du Consolateur, autre rôle du Saint-Esprit. Quinton, notre petit-fils, est né avec de nombreuses malformations et a vécu moins d'une année, pendant laquelle il a fait de fréquents séjours à l'hôpital. À cette époque, Sœur Jensen et moi vivions en Argentine. Nous désirions vraiment être avec nos enfants pour les consoler et recevoir leur consolation. Nous aimions notre petit-fils et nous voulions être près de lui. Nous ne pouvions que prier, et nous l'avons fait avec ferveur. Sœur Jensen et moi voyagions dans la mission quand nous avons appris que Quinton était décédé. Nous nous trouvions dans le hall d'entrée d'une église et nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre pour nous réconforter. Je vous témoigne que le Saint-Esprit nous a rassurés et nous a accordé une paix qui surpasse toute intelligence et que nous continuons de ressentir aujourd'hui. Nous avons aussi été témoins du don ineffable du Saint-Esprit dans la vie de notre fils, de notre belle-fille et de leurs enfants, qui à ce jour encore parlent de cette époque avec beaucoup de foi, de paix et de réconfort. Ce même don de révélation a influencé mon témoignage du Livre de Mormon. Je l'ai lu, étudié, sondé et m'en suis fait un festin encore et encore. Le Saint-Esprit m'en a révélé la véracité et la divinité. Gordon B. Hinckley appelait le Livre de Mormon l'une des pierres angulaires de l'Église, les autres étant la première vision de Joseph Smith, le rétablissement de la prêtrise, et, bien sûr, notre témoignage de Jésus-Christ, pierre principale de l'angle. Il explique, ces quatre grands dons de Dieu sont les pierres angulaires inébranlables sur lesquelles repose l'Esprit de Jésus-Christ des saints des derniers jours, ainsi que le témoignage et la conviction de ses membres. Fin de citation. Ces quatre dons de Dieu sont devenus les ancres de ma foi et de mon témoignage, chacun d'eux m'étant confirmé par la révélation du Saint-Esprit. Cependant, j'aimerais prendre quelques minutes pour me concentrer sur deux de ces pierres angulaires. La première vision et le Livre de Mormon. Il est significatif que chacun d'eux commence dans un cadre familial où les enfants sont nés de bons parents qui les ont bien instruits. Il existe un parallèle entre les événements de la vie de Lehi et ceux de la vie de Joseph Smith. Chacun a un besoin spécifique. Celui de Lehi consiste à se sauver lui-même ainsi que sa famille de la destruction imminente de Jérusalem et celui de Joseph Smith de savoir quelle église est la vraie. Chacun prie. Chacun a une vision du Père et du Fils. Chacun reçoit un livre. Tous deux prêchent. Chacun reçoit la révélation par l'intermédiaire du Saint-Esprit et par des visions et des songes. Enfin, des gens méchants les menacent. Léhi et sa famille s'enfuient et survivent. Joseph est martyrisé. Faut-il s'étonner que les missionnaires invitent les personnes qui cherchent sincèrement la vérité à commencer leur étude du livre de Mormon par un premier néphi? Ce livre est imprégné de l'Esprit du Seigneur. Dans ses premiers chapitres, il y a le message clair que la révélation et le Saint-Esprit ne sont pas accordés seulement aux prophètes, mais aussi aux pères, aux mères et aux enfants. Le message concernant la révélation et le Saint-Esprit continue tout au long du livre de Mormon. Ces vérités sont résumées par Joseph Smith, le prophète. Enlevez le livre de Mormon et les révélations, et que reste-t-il de notre religion? Il ne reste rien. En tant que saint des derniers jours, notre témoignage du livre de Mormon, qui nous est donné par révélation, nous assure que cette religion et sa doctrine sont vraies. Les choses de l'esprit sont sacrées et difficiles à exprimer. Comme Amon, nous déclarons, voici, je vous le dis, je ne peux pas dire la plus petite partie de ce que je ressens. Cependant, je témoigne que le Saint-Esprit est réel et qu'il est le testateur, le révélateur, le consolateur, le guide et l'instructeur divin. Je témoigne humblement que cette Église, vraie et vivante, que cette religion, repose sur ces quatre pierres angulaires. Je témoigne que Jésus-Christ est véritablement la pierre principale de l'angle. Le président Monson est le prophète du Seigneur, et ces 15 hommes, assis derrière moi, sont prophètes, voyants, apôtres et révélateurs. Ils détiennent la sainte prêtrise et les clés du royaume. Je les aime, je les honore et je les soutiens. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le chœur et l'assemblée vont maintenant chanter « Sauveur d'Israël ». Après ce cantique, nous aurons le plaisir d'entendre Marie N. Cook, première conseillère dans la première présidence générale des jeunes filles. Elle sera suivie de Daline H. Hawkes, du Collège des Douze Apôtres. Le chœur chantera ensuite « Aimez vos frères ».
This is the 180th semi-annual general conference.
Vous assistez à la 180e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
A short time ago, little Ruby was born into our family. As I looked into her sweet face,
récemment, une petite Ruby est née dans notre famille. En regardant son visage si mignon, je m'émerveillais de savoir qu'avant de venir sur la terre, elle avait vécu dans la présence de notre Père Céleste. Elle avait accepté son grand plan de bonheur et choisi de les suivre, lui et Jésus-Christ notre Sauveur. Grâce à cette décision, elle a eu le droit de venir sur la terre pour faire l'expérience de la mortalité et progresser vers la vie éternelle. Avec son esprit uni à son corps, Ruby est entrée dans une période d'apprentissage où elle pourra faire ses preuves, choisir de suivre le Christ et se préparer à être digne de la vie éternelle. Ruby est venue au monde pur, mais comme le prévoit le plan, elle affrontera des difficultés et des tentations et elle commettra des fautes. Toutefois, grâce à l'expiation de notre Sauveur, elle pourra recevoir le pardon avec une plénitude de joie et être pure à nouveau, prête à vivre à jamais en présence de notre Père Céleste. Quelques heures après sa naissance, j'ai eu la joie de tenir ce précieux enfant dans mes bras. Et j'ai dit à sa mère, « Nous devons apprendre à Ruby à être une femme vertueuse, pure et d'une valeur inestimable, comme son nom l'implique. » Sa mère a répondu, « Je commence aujourd'hui. » Que fera la mère de Ruby pour commencer aujourd'hui? Comment nous, parents, grands-parents et dirigeants, pouvons-nous mettre et garder nos enfants, nos jeunes, sur le chemin de la vie éternelle? Nous devons être des modèles de croyants. Brigham Young a dit, « Nous ne devons jamais nous permettre de faire quoi que ce soit que nous ne voudrions pas que nos enfants fassent. Nous devons leur donner un exemple que nous désirons les voir imiter. » Chacun de nous peut commencer aujourd'hui en donnant ce bon exemple. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à être un modèle de croyant en foi et en pureté, deux principes requis pour le salut. Soyez un modèle de croyant par votre foi. Fortifiez activement votre propre foi et votre témoignage de Jésus-Christ, vous préparant ainsi à témoigner par la parole et par l'exemple devant vos enfants. Je vais vous parler d'une mère merveilleuse dont la vie était un exemple de foi. Lorsque Joseph Smith, le prophète, était petit garçon, il a observé sa mère, Lucy Mack Smith, et a pris d'elle la foi en Dieu. Lucy cherchait des réponses en sondant les Écritures et Joseph suivit le même chemin, se tournant vers la Bible pour être guidé comme sa mère. Lucy résolvait aussi les problèmes familiaux en recherchant seule l'aide du Seigneur par la prière. Un jour, comme il y avait de la discorde dans sa famille au sujet de la religion, Lucy déclara qu'elle s'était retirée dans un bosquet de jolis cerisiers sauvages, non loin de là, pour prier le Seigneur. Elle priait aussi avec une grande foi lorsqu'elle affrontait des problèmes personnels de santé, quand Joseph faillit perdre une jambe à cause d'une ostéomyélite et quand Sophronia, la sœur de Joseph, faillit mourir de la typhoïde. Au sujet de la maladie de Sophronia, Lucie écrivit « J'ai regardé mon enfant, mon mari et moi avons joint nos mains et sommes tombés à genoux près de son lit et avons déversé notre chagrin et nos supplications pour qu'il les entende. » Sophronia se rétablit. Je suis persuadée que les enfants de Lucie l'ont souvent vu prier avec foi et recevoir des réponses à ses prières. Lucie pria avec foi pour être guidée et Joseph lui aussi se retira dans un bosquet où il pria avec foi, cherchant comme sa mère une réponse du Seigneur. Comme Lucie, nous devons montrer à nos enfants et à nos jeunes comment renforcer leur foi et leur témoignage de Jésus-Christ en renforçant les nôtres par l'étude des Écritures et par la prière, aussi bien en privé qu'avec eux. À la différence de Lucy Smith, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir davantage que la Bible. Nous avons les Écritures modernes et les paroles de nos prophètes des derniers jours pour nous guider sûrement sur le chemin de la vie éternelle. Dans le Livre de Mormon, nous apprenons que ceux qui étaient sur le chemin se tenaient continuellement avec fermeté à la barre de fer, la comparant à la parole de Dieu. Dans le monde actuel, plein de tentations, il peut être difficile de s'y tenir avec fermeté, car Satan, à sa manière sournoise, essaie de nous écarter des voies de Dieu. Si nous avons une main sur la barre de fer et une main dans le monde, nous mettons nos enfants et nos jeunes en danger de perdre leur chemin. Si notre exemple n'est pas clair, alors, selon les paroles de Jacob, nous perdons la confiance de nos enfants à cause de notre mauvais exemple. Parents, grands-parents et dirigeants, votre message doit être clair. Cette clarté ne viendra que si vous avez les deux mains sur la barre de fer et si vous vivez selon les principes énoncés dans les Écritures et dans les paroles des prophètes des derniers jours. Peut-être n'êtes-vous pas en train d'élever un prophète comme Lucie, mais vous élevez certainement les dirigeants de demain et vos actes sont aussi tangiblement liés à la foi de vos enfants. Ensuite, soyez un modèle de croyant par votre pureté. La seule façon dont nous puissions devenir purs, c'est par l'expiation de notre Sauveur. Pour chacun de nous, le processus de la purification commence par la foi, le repentir et notre première alliance, le baptême. Voici le conseil que donne Robert D. Hales pour aider nos enfants à vivre selon l'alliance de leur baptême. Nous leur enseignons qu'au moment où ils sortent de l'eau, ils sortent du monde pour entrer dans le royaume de Dieu. Par alliance, ils acceptent d'obéir à ses commandements. Les alliances nous imposent la stricte obligation d'honorer les engagements que nous avons pris vis-à-vis de Dieu. Pour respecter nos alliances, nous devons abandonner les activités et les intérêts qui nous empêchent de les honorer. Jeunes, soyez forts est un merveilleux instrument pour aider les jeunes à comprendre cette obligation sacrée des alliances et les bénédictions de la pureté qui découlent du respect des alliances. Cette brochure contient des paroles des prophètes des derniers jours, la barre de fer qui les guidera en toute sécurité sur le chemin étroit et resserré, les détournant des pièges de Satan qui peuvent retarder leur progression. Dans ce fascicule, vous trouverez aussi les nombreuses bénédictions découlant de l'obéissance et de la recherche de ce qui est vertueux et aimable. Parents, procurez-vous un exemplaire personnel de ce fascicule et lisez-le souvent. Vivez vous-même selon ces principes. Ayez avec les jeunes des conversations profondes sur l'Évangile pour les aider à acquérir personnellement le désir de vivre et de découvrir par eux-mêmes le sens et la raison d'être de ces principes. Les principes énoncés aux sections divertissement et médias et tenues vestimentaires et présentations peuvent être extrêmement problématiques parce qu'ils sont de plus en plus en désaccord avec les normes du monde. Nous devons être des modèles de ce qui est vertueux et aimable par nos choix personnels des médias. Nous devons veiller à ce que les médias que nous invitons dans notre foyer n'émoussent pas la sensibilité à l'esprit, ne nuisent pas aux relations avec notre famille et nos amis ou ne révèlent pas des priorités personnelles qui sont en contradiction avec les principes de l'Évangile. Par exemple, nous pouvons aider nos enfants à comprendre que le fait de passer de longues périodes sur l'Internet, sur des réseaux sociaux et des téléphones portables, à jouer à des jeux vidéo ou à regarder la télévision nous empêche d'avoir des activités productives et des interactions de valeur avec autrui. Nous sommes aussi des modèles de ce qui est vertueux et aimable par notre tenue vestimentaire et notre présentation. En tant que peuple de l'Alliance, nous avons la responsabilité de soigner, de protéger et de vêtir convenablement notre corps. Nous devons aider nos enfants et nos jeunes à comprendre que nous respectons notre corps comme un temple et un don de Dieu. Nous donnons l'exemple en refusant d'acheter ou de porter des vêtements impudiques, trop moulants, trop transparents ou révélateurs de quelque manière que ce soit. Ceux qui observent les alliances s'efforcent d'être obéissants en tout temps et dans tous les lieux à cause de leur amour pour Dieu et pour ses bénédictions promises. Un soir, alors que nous marchions, mon mari et moi, nous sommes passés près d'une réception de mariage en plein air. Nous ne connaissions pas ces gens, mais ils donnaient immédiatement une impression de vertu. Leur choix de musique et de vêtements était excellent. La robe de la mariée radieuse était incontestablement pudique, comme celle de la demoiselle d'honneur. Cette famille avait choisi de ne pas mêler les habitudes du monde à la sainteté de cette journée. Je vais maintenant dire un mot aux merveilleux jeunes de notre Église. Merci des bons exemples que vous donnez à vos amis, vos professeurs, vos dirigeants et votre famille. Je suis consciente du fait que beaucoup d'entre vous êtes le seul membre de l'Église dans votre famille. Vous allez peut-être même à l'Église tout seul. Je vous félicite de votre engagement et de votre exemple de droiture. Soyez patient et continuez à vivre de façon juste. Il y a bien des gens qui peuvent vous aider. Le président Manson a dit « Même une famille exemplaire a besoin de tout le soutien et de toute l'aide que peuvent lui apporter des hommes et des femmes bons, animés d'un amour sincère. » Cherchez dans votre paroisse et votre pieu les dirigeants et les amis qui sont des modèles de croyants et apprenez en les regardant. Lorsque j'étais jeune, j'ai repéré des modèles de croyants. En plus de mes parents, il y avait ma tante Karma. Je me souviens très nettement d'un discours qu'elle a prononcé à une soirée des principes du pieu alors que j'avais 16 ans. Elle a enseigné l'importance d'être chaste et digne de se marier au temple. J'ai été profondément touchée par son témoignage. Depuis toute petite, j'avais observé sa vie vertueuse et je savais qu'elle correspondait à ce qu'elle enseignait. Je voulais suivre son exemple. Jeunes gens et jeunes filles, vous pouvez commencer aujourd'hui en étant un modèle de croyant par votre foi et votre pureté. Fortifiez votre foi et votre témoignage chaque jour par l'étude des Écritures et par la prière. Observez l'alliance de votre baptême qui vous gardera pur et digne de recevoir les conseils du Saint-Esprit. Vous pouvez commencer aujourd'hui à être cet exemple que d'autres suivront. Et l'on ne sait jamais. Vous serez peut-être l'exemple dont ma petite Ruby aura besoin un jour. Pour l'instant, Ruby a un merveilleux départ sur le chemin de la vie éternelle. Ses parents établissent des modèles de justice dans son foyer, commençant chaque journée par la résolution d'être un modèle de croyant. Espérons qu'en exerçant son libre arbitre, Ruby choisira de suivre cet exemple. Je suis reconnaissante pour le plan du bonheur et je témoigne que c'est la seule façon dont Ruby et chacun d'entre vous et nous pouvons être purifiés et vivre à jamais en présence de notre Père Céleste. Puissions-nous tous commencer aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Notre Père Céleste a établi deux lignes de communication qui le relie à ses enfants et que nous pouvons appeler la ligne personnelle et la ligne de la prêtrise. Si nous voulons qu'elle soit un guide pour nous, nous devons tous comprendre comment fonctionnent ces deux lignes essentielles. Grâce à la ligne personnelle, nous prions directement notre Père Céleste et il nous répond par les voies qu'il a choisies, sans intermédiaire mortel. Nous prions notre Père Céleste au nom de Jésus-Christ et il répond par l'intermédiaire du Saint-Esprit et d'autres manières. La mission du Saint-Esprit est de témoigner du Père et du Fils pour nous guider vers la vérité et pour nous montrer tout ce que nous devons faire. Cette ligne de communication personnelle avec notre Père Céleste, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, est la source de notre témoignage de la vérité, de notre connaissance et des conseils que nous recevons de la part d'un Père Céleste aimant. Elle est une partie essentielle de son merveilleux plan qui permet à chacun de ses enfants de recevoir le témoignage personnel de sa véracité. La ligne de communication personnelle directe avec notre Père Céleste par l'intermédiaire du Saint-Esprit fonctionne sur la base de notre dignité et elle est si importante qu'il nous est commandé de renouveler nos alliances en prenant la Sainte Cène tous les dimanches. Nous nous qualifions ainsi pour être dignes de la promesse que nous aurons toujours son esprit avec nous pour nous guider. En ce qui concerne cette ligne de communication personnelle avec le Seigneur, nous avons la même croyance et la même pratique que les chrétiens qui affirment que les intermédiaires entre Dieu et l'homme sont inutiles parce que nous avons tous un accès direct à Dieu selon le principe que Martin Luther appelait le sacerdoce universel. Je développerai ce point un peu plus loin. La ligne personnelle est d'une importance vitale pour les décisions personnelles et la direction de la famille. Malheureusement, certains membres de notre Église sous-estiment la nécessité de cette ligne personnelle directe. Parce que la direction par les prophètes est sans aucun doute très importante, la ligne de la prêtrise, qui fonctionne essentiellement pour les communications divines concernant les affaires de l'Église, certains membres désirent que les dirigeants de la prêtrise prennent des décisions à leur place, décisions qu'ils devraient prendre eux-mêmes en recevant l'inspiration par leur ligne de communication personnelle. Les décisions personnelles et la direction de la famille relèvent principalement de la ligne personnelle. Je me sens poussé à ajouter deux autres avertissements dont nous devons nous souvenir concernant cette précieuse ligne de communication personnelle directe avec notre Père Céleste. Tout d'abord, dans sa forme la plus complète, la ligne personnelle ne fonctionne pas indépendamment de la ligne de la prêtrise. Le don du Saint-Esprit, le moyen de communication entre Dieu et l'homme, est conféré par l'autorité de la prêtrise, par les hommes qui détiennent les clés de la prêtrise. Il n'est pas accordé simplement parce qu'on le désire ou qu'on a la foi. Et nous devons réaffirmer chaque jour de sabbat notre droit à la compagnie constante de l'Esprit en prenant dignement la Sainte Cène et en renouvelant les alliances d'obéissance et de service que nous avons contractées lors de notre baptême. De même, nous ne pouvons pas communiquer de manière fiable par l'intermédiaire de notre ligne personnelle si nous sommes désobéissants à la ligne de la prêtrise ou en désaccord avec elle. Le Seigneur a déclaré que les pouvoirs du ciel ne peuvent être maîtrisés ou utilisés que selon les principes de la justice. Malheureusement, il est courant chez les personnes qui enfreignent les commandements de Dieu ou qui désobéissent aux conseils donnés par leurs dirigeants de la prêtrise de déclarer que Dieu leur a révélé qu'elles sont dispensées d'obéir à tel commandement ou de suivre tel conseil. Ces personnes reçoivent peut-être des révélations ou de l'inspiration, mais elles ne proviennent pas de la source qu'elles imaginent. Le diable est le père des mensonges et il essaye toujours de contrarier l'œuvre de Dieu par des imitations habiles. Alors que notre Père Céleste communique directement avec nous par l'intermédiaire du Saint-Esprit, grâce à notre ligne personnelle, la ligne de communication de la prêtrise, elle, nécessite des intermédiaires. Notre Sauveur Jésus-Christ, son Église et ses dirigeants ordonnés. Étant donné ce qu'il a réalisé grâce à son sacrifice expiatoire, Jésus-Christ a le pouvoir de fixer les conditions requises pour que nous soyons dignes des bénédictions de son expiation. C'est la raison pour laquelle nous avons des commandements et des ordonnances. C'est la raison pour laquelle nous faisons des alliances. C'est de cette façon que nous nous qualifions pour les bénédictions promises. C'est grâce à la miséricorde et à la grâce du Saint d'Israël que nous sommes tous sauvés après tout ce que nous pouvons faire. Pendant son ministère terrestre, Jésus-Christ a conféré l'autorité de la prêtrise qui porte son nom et il a fondé l'Église qui porte son nom, qui porte aussi son nom. Dans cette dernière dispensation, l'autorité de la prêtrise a été rétablie et son Église a été réorganisée par l'intermédiaire des messagers célestes qui ont ordonné Joseph Smith le prophète. Cette prêtrise rétablie et cette Église de nouveau fondée sont au cœur de la ligne de la prêtrise. La ligne de la prêtrise est le canal par lequel Dieu a parlé à ses enfants dans les Écritures, dans les temps anciens. Et c'est la ligne par laquelle il parle actuellement, par l'intermédiaire des enseignements et des conseils des prophètes et des apôtres vivants et des autres dirigeants inspirés. C'est de cette façon que nous recevons les ordonnances requises. C'est de cette façon que nous recevons des appels au service de son Église, dans son Église. Son Église est le canal et sa prêtrise est le pouvoir par lequel nous avons la bénédiction de participer ensemble aux activités de coopération qui sont essentielles à l'accomplissement de l'œuvre du Seigneur. Cela inclut la prédication de l'Évangile, la construction des temples et des églises et l'aide aux pauvres. Concernant cette ligne de prêtrise, nous croyons et nous pratiquons ce que certains chrétiens affirmaient, que les ordonnances ou sacrements faisant autorité, sont indispensables et doivent être accomplis par des personnes autorisées et dotées de pouvoir par Jésus-Christ. Nous le croyons également, mais nous différons évidemment des autres chrétiens quant à la façon dont nous avons obtenu cette autorité. Certains membres ou anciens membres de notre Église ne voient pas l'importance de la lignée de la prêtrise, de la ligne de la prêtrise. Ils sous-estiment l'importance de l'Église, de ses dirigeants et de ses programmes. Se fiant uniquement à leur ligne personnelle, ils suivent leur propre voie, prétendant définir la doctrine et diriger des organisations parallèles de manière contraire aux enseignements des prophètes dirigeants. Ils sont ainsi le reflet de l'hostilité contemporaine à l'égard de ce qui est appelé avec mépris les religions organisées. Ceux qui récusent le besoin d'une religion organisée rejettent l'œuvre du Maître qui a établi son Église et ses dirigeants au midi des temps et qu'il a organisé de nouveau de nos jours. La religion organisée, établie par autorité divine, est essentielle, comme l'a enseigné l'apôtre Paul, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Nous devons tous nous souvenir de la déclaration du Seigneur dans la Révélation moderne que la voix des serviteurs du Seigneur est la voix du Seigneur. J'aimerais ajouter encore deux avertissements dont nous devons nous souvenir au sujet de la confiance envers cette ligne vitale de la prêtrise. Tout d'abord, la ligne de la prêtrise ne remplace pas la ligne personnelle. Nous avons tous besoin du témoignage personnel de la vérité. Pendant que notre foi se développe, nous nous appuyons nécessairement sur les paroles et la foi d'autres personnes comme nos parents, nos instructeurs ou nos dirigeants de la prêtrise. Mais si nous comptons sur un dirigeant de la prêtrise ou un instructeur pour recevoir notre témoignage personnel de la vérité, au lieu de le recevoir par la ligne personnelle, nous prenons toujours le risque de perdre notre foi à cause du comportement de cette personne. Pour ce qui est de l'acquisition, de la connaissance ou d'un témoignage mûr de la vérité, nous ne devons pas dépendre d'un intermédiaire mortel entre notre Père céleste et nous. Deuxièmement, tout comme la ligne personnelle, la ligne de la prêtrise ne peut fonctionner en notre faveur que si nous sommes dignes et obéissants. De nombreuses Écritures nous enseignent que si nous persistons à enfreindre gravement les commandements de Dieu, nous sommes retranchés de sa présence. Lorsque cela se produit, il est très difficile pour le Seigneur et pour ses serviteurs de nous aider spirituellement, et nous ne pouvons même pas obtenir cette aide par nous-mêmes. L'histoire nous donne un exemple frappant de l'importance d'être en accord avec l'Esprit lorsqu'on est un serviteur du Seigneur. Le jeune prophète Joseph Smith ne pouvait pas traduire quand il était en colère ou énervé. David Whitmer raconte, je cite, « Un matin, tandis qu'il s'apprêtait à continuer la traduction, quelque chose alla de travers dans la maison et cela l'irrita. Quelque chose qu'avait fait Emma, sa femme. Oliver et moi montâmes à l'étage et Joseph monta peu après pour poursuivre la traduction, mais il ne put rien faire. Il ne pouvait pas traduire la moindre syllabe. Il descendit, se rendit dans le verger et supplia le Seigneur. Il fut absent pendant près d'une heure, rentra dans la maison et demanda pardon à Emma. Puis il remonta, là où nous nous trouvions, et la traduction se poursuivit correctement. Il ne pouvait rien faire s'il n'était pas humble et fidèle. » Fin de citation. Je terminerai en donnant d'autres exemples qui montrent que les deux lignes établies par notre Père Céleste pour communiquer avec ses enfants sont nécessaires. Les deux lignes sont essentielles pour accomplir son but, qui est de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de ses enfants. Nous trouvons un exemple scripturaire très ancien de cette nécessité dans le conseil que Jéthro, le beau-père de Moïse, lui a donné en lui disant de ne pas essayer d'en faire tant. Le peuple attendait du matin au soir les conseils de leurs dirigeants de la prêtrise pour qu'ils consultent Dieu et aussi pour qu'ils prononcent entre eux. Nous soulignons souvent que Jéthro a conseillé à Moïse de déléguer en nommant des juges pour gérer les conflits personnels. Mais Jéthro a également donné à Moïse un conseil qui illustre l'importance de la ligne personnelle. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. En d'autres termes, on devait enseigner aux Israélites qui suivaient Moïse qu'ils ne devaient pas soumettre tous leurs problèmes à ce dirigeant de la prêtrise. Ils devaient comprendre les commandements et rechercher l'inspiration pour résoudre ces problèmes eux-mêmes. De récents événements au Chili illustrent la nécessité de ces deux lignes. Ce pays a connu un terrible tremblement de terre. Beaucoup de nos membres ont perdu leur maison, certains ont perdu des membres de leur famille, beaucoup ont perdu confiance. Rapidement, car notre Église est prête à réagir à de telles catastrophes, de la nourriture, des abris et d'autres fournitures ont été envoyées. Les saints du Chili ont entendu la voix du Seigneur répondre par l'intermédiaire de son Église et de ses dirigeants à leurs besoins matériels. Mais aussi efficace qu'ait été la ligne de la prêtrise, ce n'était pas suffisant. Chaque membre avait besoin d'invoquer le Seigneur et de recevoir directement le message de réconfort et d'aide qui est transmis par le Saint-Esprit à ceux qui le recherchent et qui l'écoutent. Notre œuvre missionnaire est un autre exemple de la nécessité de ces deux lignes. Les hommes et les femmes qui sont appelés à être des missionnaires sont dignes et désireux de servir grâce aux enseignements qu'ils ont reçus par l'intermédiaire de la ligne de la prêtrise et grâce aux témoignages qu'ils ont reçus par l'intermédiaire de leur ligne personnelle. Ils sont appelés par la ligne de la prêtrise. Ensuite, en tant que représentants du Seigneur et sous la direction de la ligne de sa prêtrise, ils instruisent les amis de l'Église. Les personnes qui recherchent sincèrement la vérité écoutent les missionnaires qui les exhortent à prier pour savoir par elles-mêmes, par l'intermédiaire de la ligne personnelle, si le message est vrai. Un dernier exemple qui montre comment ces principes s'appliquent dans la famille et dans l'Église. Dans l'Église, toute autorité de la prêtrise fonctionne sous la direction de quelqu'un qui détient les clés appropriées. C'est la lignée de la prêtrise. Mais l'autorité qui préside la famille, qu'il s'agisse du père ou de la mère dans une famille monoparentale, fonctionne dans les affaires familiales sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'autorisation de quelqu'un détenant les clés de la prêtrise. Il en est de même pour la ligne personnelle. Les deux lignes doivent fonctionner dans notre vie familiale et dans notre vie personnelle si nous voulons progresser et accomplir la destinée qui a été prévue par notre Père Céleste pour ses enfants. Nous devons utiliser de façon équilibrée à la fois la ligne personnelle et la ligne de la prêtrise pour parvenir à la progression qui est le but de la vie dans la condition mortelle. Si la pratique religieuse personnelle dépend trop de la ligne personnelle, l'individualisme prend le pas sur l'importance de l'autorité divine. Si la pratique religieuse personnelle se repose trop sur la ligne de la prêtrise, la progression personnelle en souffre. Les enfants de Dieu ont besoin des deux lignes pour accomplir leur destinée éternelle. L'Évangile rétabli enseigne les deux et l'Église rétablie donne accès aux deux. Je témoigne que le président Thomas S. Monson est le prophète du Seigneur qui détient les clés qui gouvernent la ligne de la prêtrise. Je témoigne que Jésus-Christ est le Seigneur dont c'est ici l'Église. Et je témoigne de l'Évangile rétabli, dont chacun de nous peut connaître la véracité grâce à la précieuse ligne personnelle qui le relie à notre Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ, amen.
beautiful.
Très joli. Nous remercions le chœur du tabernacle de la belle musique qu'il a interprétée ce matin et les personnes qui ont fait un discours pendant cette session de la conférence. Nous allons maintenant avoir l'honneur d'entendre notre prophète bien-aimé, Thomas S. Monson. Après son discours, le chœur terminera la session en chantant « Vivons ce bonheur ». Carlos A. Godoy, des 70, fera ensuite la prière de clôture. La dernière session de cette conférence commencera à 14h cet après-midi.
This has been a marvelous session.
Mes frères et sœurs, quelle magnifique session. Quand j'étais appelé comme président de l'Église, j'ai dit, je prendrai une tâche moi-même, je serai le conseiller pour le chœur du tabernacle. Je suis très fier de mon chœur. Cœur du tabernacle.
My mother once said of me,
ma mère m'a dit un jour, je suis fier de tout ce que tu as fait. Mais j'ai une remarque à te faire. Tu as dû rester au piano. Pourquoi j'ai fait du piano? Et j'ai joué un morceau pour elle.
Birthday party. And I gave her a kiss on the forehead and she embraced me.
Et j'ai embrassé sur le front et elle m'a embrassé. Je pense à elle. Je pense à mon père. Je pense à toutes les autorités générales et toutes les autres personnes qui m'ont influencé, aux veuves. 84, à qui j'apportais du poulet, un peu d'argent pour elle aussi. J'en ai visité une tard un soir, la maison de retraite. Je me disais qu'elle devait être... Elle était endormie, mais elle était restée éveillée et elle disait, je sais qu'il viendra. Quand je suis entré dans la maison de retraite, je l'ai appelée par son nom, elle était éveillée. Elle m'a pris la main, l'a pressée contre ses lèvres, elle m'a dit, je savais que tu viendrais. Comment aurais-tu pu je ne pas venir? Une magnifique musique. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous avons entendu des messages inspirés de vérité, d'espoir et d'amour. Nos pensées se sont tournées vers celui qui a expié nos péchés, qui nous a montré la manière de vivre et de prier, et qui a démontré par ses actes les bénédictions du service, à savoir notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Dans le livre de Luc, au chapitre 17, nous lisons de lui, Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit, « Lève-toi, ta foi t'a sauvé. » Grâce à l'intervention divine, les lépreux se virent épargner une lente mort et cruelle et bénéficièrent d'une prolongation de leur vie. La reconnaissance exprime par l'un d'entre eux l'humilité et la bénédiction du Maître, l'ingratitude montrée par l'un d'autre, sa déception. Mes frères et sœurs, nous souvenons-nous de remercier pour la bénédiction que nous recevons. Lorsque nous remercions sincèrement, non seulement cela nous aide à prendre conscience de nos bénédictions, mais cela ouvre aussi les portes des cieux et nous aide à ressentir l'amour de Dieu. Mon ami, cher ami, le président Hinckley a dit, lorsque vous marchez avec gratitude, vous ne marchez pas avec arrogance, avec inquiétude et avec égoïsme. Vous marchez avec un esprit de reconnaissance qui vous va bien et qui vous apportera des bénédictions. Merci, Gordon. Dans le livre de Matthieu, dans la Bible, nous avons un autre récit de reconnaissance, cette fois-ci exprimé par le Sauveur. Alors qu'il voyageait dans le désert depuis 3 jours, plus de 4000 personnes le suivaient et voyageaient avec lui. Il fut ému de compassion pour elles, parce qu'elles n'avaient pas mangé depuis 3 jours entiers. Ses disciples lui demandèrent cependant, « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour assasier une si grande foule ?» Comme tant d'entre nous, les disciples, ne voyaient que ce qui manquait. Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?»« 7 », répondirent-ils, « et quelques petits poissons. » Alors Jésus fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit. Elle les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Remarquez que le Sauveur a rendu grâce pour ce qu'ils avaient. Et il s'en est suivi un miracle. Tous mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Nous sommes tous, à un moment ou à un autre, concentrés sur ce qui nous manquait, plutôt que sur nos bénédictions. Le philosophe grec Épictète a dit, « Sage est l'homme qui ne pleure pas sur ce qu'il n'a pas, mais se réjouit de ce qu'il a. » La reconnaissance est un principe divin. Le Seigneur a déclaré, dans une révélation donnée à Joseph Smith, le prophète, « Tu remercieras le Seigneur, ton Dieu, en toutes choses. » Et il n'y a rien qui offense autant Dieu ou allume autant sa colère que ceux qui ne confessent pas sa main en toutes choses. Dans le livre de Mormon, il nous est dit de vivre quotidiennement dans les actions de grâce pour les miséricordes et les nombreuses bénédictions que Dieu nous accorde. Quelle que soit notre situation, nous avons tous beaucoup de raisons d'être reconnaissants si nous prenons le temps de réfléchir à nos bénédictions. Quelle époque merveilleuse pour être sur la terre. Il y a beaucoup de choses mauvaises dans le monde aujourd'hui, mais il y en a beaucoup de justes et de bonnes. Des mariages réussissent, des parents aiment leurs enfants et se sacrifient pour eux. Des amis se soucient de nous et nous aident. Des enseignants instruisent. Notre vie est bénie d'innombrables manières. nous pouvons nous élever et par là élever les autres. Quand nous refusons de nous attarder dans la sphère des pensées négatives et que nous entretenons dans notre cœur une attitude reconnaissante. Si l'ingratitude fait partie des péchés graves, alors la reconnaissance a sa place parmi les vertus les plus nobles. Quelqu'un a dit que la reconnaissance est non seulement la plus grande des vertus, mais aussi la mère de toutes les autres. Comment pouvons-nous cultiver dans notre cœur une attitude reconnaissante? Joseph F. Smith, 6e président de l'Église, a apporté une réponse. Il a dit, l'homme reconnaissant voit dans le monde tant de raisons d'être reconnaissant. Et pour lui, le bon l'emporte sur le mauvais. L'amour est plus fort que la jalousie. Et la lumière chasse les ténèbres de sa vie. Il a ajouté, l'orgueil détruit notre reconnaissance et installe l'égoïsme à sa place. Comme nous sommes plus heureux en présence d'une âme reconnaissante et aimante, et comme nous ferions bien d'entretenir par une vie de prière une attitude reconnaissante envers Dieu et envers les hommes. Fin de citation. Le président Smith est en train de nous dire qu'une vie de prière est le secret pour posséder la reconnaissance. Les biens matériels nous rendent-ils heureux et reconnaissants? Peut-être momentanément. Cependant, les choses qui procurent une reconnaissance et un bonheur profond et durable sont celles que l'argent ne peut acheter. Notre famille, l'Évangile, de bons amis, notre santé, nos capacités, l'amour que nous recevons des gens qui nous entourent. Malheureusement, ce sont certaines des choses que nous nous permettons de considérer comme un dû. L'auteur anglais Aleister Clay a écrit « La plupart des êtres humains ont une capacité presque infinie de considérer les choses comme un dû. » Fin de citation. Nous considérons souvent les personnes qui méritent le plus notre reconnaissance comme un dû. N'attendons pas qu'il soit trop tard pour exprimer notre reconnaissance. Parlant des êtres chers qu'elle a perdus, une femme déclare ainsi ses regrets. Je cite, « Je me souviens de ces jours heureux, et souvent je voudrais pouvoir dire dans l'oreille des morts la reconnaissance qui leur a été due dans la vie et qui leur a été si rarement exprimée. » Fin citation. La perte d'être cher est presque inévitablement accompagnée de regrets. Réduisons ces regrets autant qu'humainement possible en leur exprimant fréquemment notre amour et notre reconnaissance. Nous ne savons jamais si bientôt il ne sera pas trop tard pour le faire. Un cœur reconnaissant s'obtient donc en exprimant de la reconnaissance à notre Père Céleste pour ses bénédictions, aux personnes qui nous entourent, pour tout ce qu'elles nous apportent. Cela demande un effort conscient, au moins jusqu'à ce que nous ayons véritablement appris ce qu'est une attitude reconnaissante et que nous l'ayons cultivée. Souvent, nous ressentons la reconnaissance et nous avons l'intention de remercier, mais nous oublions de le faire. Nous ne prenons pas le temps de le faire. Quelqu'un a dit que ressentir de la reconnaissance et ne pas l'exprimer est comme emballer un cadeau et ne pas le donner. Lorsque nous rencontrons des problèmes et des difficultés, il nous est souvent difficile de nous concentrer sur nos bénédictions. Mais si nous creusons bien et cherchons bien, nous pouvons ressentir et voir tout ce que nous avons reçu. Voici l'histoire d'une famille qui a pu trouver des bénédictions au milieu de graves difficultés. C'est un récit que j'ai lu il y a de nombreuses années et que j'ai gardé en raison du message qu'il transmet. Il était écrit par Gordon Green et paru dans un magazine américain il y a plus de 50 ans. Gordon raconte son enfance dans une ferme du Canada où ses frères et sœurs et lui devaient se dépêcher de rentrer de l'école alors que les autres enfants jouaient au ballon et allaient nager. Mais leur père avait la capacité de les aider à comprendre que leur travail avait de la valeur. C'était particulièrement vrai après l'époque des moissons, quand la famille célébrait la fête de l'Action de grâce, qu'à ce jour-là, leur père leur demandait de faire l'inventaire de tout ce qu'ils avaient. Le matin, il les emmenait dans la cave, contenant des tanneaux de pommes, des betteraves, des carottes enfouies dans du sable et des montagnes de pommes de terre, ainsi que des bocaux de petits pois, de maïs, de haricots verts, de confitures, de fraises et autres qui remplissaient leurs étagères. Ils demandaient aux enfants de tout compter avec soin. Puis ils allaient dans la grange et estimaient le nombre de tonnes de foin qu'il y avait, le nombre de tonneaux de grains dans le grenier à céréales, et comptaient les vaches, les cochons, les poulets, les dindes et les oies. Le père disait qu'il voulait voir où ils en étaient. Mais il savait que ce qu'il voulait en ce jour de fête, c'était leur montrer toutes les bénédictions de Dieu et sa satisfaction de leurs heures de travail. Ensuite, quand ils s'asseyaient pour le repas de fête que leur mère avait préparé, les bénédictions étaient quelque chose qu'ils ressentaient. Mais Gordon indique que la fête de l'Action de grâce, dont il se souvient avec le plus de reconnaissance, et celle semblait ne rien y avoir dont il puisse être reconnaissant. L'année avait bien commencé. Il leur restait du foin, beaucoup de semences, 4 portées de cochons, et leur père avait un peu d'argent de côté pour pouvoir acheter un jour une engrangeuse pour le foin. Machine merveilleuse dont la plupart des fermiers rêvaient. C'était aussi l'électricité, l'année où l'électricité était arrivée dans leur ville, mais pas jusque chez eux, parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Un soir, alors que la mère de Gordon faisait la grande lessive, son père est entré, a pris place devant la planche à laver, a demandé à sa femme de se reposer et de faire son tricot. Il a dit « Tu passes plus de temps à faire la lessive qu'à dormir. Crois-tu que nous devrions faire venir l'électricité après tout ?» Bien que ravi à l'idée, elle a versé une arme ou deux en pensant à la grangeuse qu'il ne pourrait pas acheter. Donc la ligne électrique est arrivée chez eux cette année-là. Ils ont acheté une machine à laver, pas très élaborée, mais qui marchait toute la journée toute seule, et des ampoules brillantes qui pendaient de chaque plafond. Il n'y avait plus de lampes à huile à remplir, plus de mèches à couper, plus de verres de lampes à laver. Les lampes ont été remises dans le grenier. L'arrivée de l'électricité dans leur ferme a presque été la dernière bonne chose qui leur soit arrivée cette année-là. Alors que leur culture commençait à sortir de terre, la pluie s'est mise à tomber. Quand elle a fini par s'arrêter, il ne restait plus une plante nulle part. Ils ont refait les semailles, mais de nouvelles pluies ont empêché les cultures de sortir de terre. Leurs pommes de terre ont pourri dans la boue. Ils ont vendu 2 vaches, tous leurs cochons et d'autres bétails qu'ils pensaient garder, mais à faible prix, parce que tout le monde a dû faire la même chose. Tout ce qu'ils ont récolté cette année-là a été un carré de navets qui avait survécu aux tempêtes. Puis, la fête de l'Action de grâce est arrivée. Leur mère a dit « On ferait mieux de l'oublier cette année. Il ne reste même pas une oie. » Mais le matin de la fête de l'Action de grâce, le père de Gordon est arrivé avec un lièvre, a demandé à sa femme de le préparer. Elle s'y est mise à contre-cœur, disant qu'il faudrait longtemps pour cuire ces vieilles carnes. Quand le plat a finalement été mis sur la table, quelques navets qui avaient survécu, les enfants ont refusé de manger. La mère de Gordon s'est mise à pleurer. Alors, son père a fait quelque chose d'étrange. Il est monté au grenier, a descendu une lampe à huile qu'il a mise sur la table et l'a allumée. Il a demandé aux enfants d'éteindre les lampes électriques. Quand il n'y a plus que la lampe, ils ont eu du mal à croire qu'il a fait si sombre auparavant. Ils se sont demandé comment ils avaient réussi à avoir quelque chose avec les lampes brillantes, avant les lampes brillantes rendues possibles par l'électricité. Ils ont béni le repas et tout le monde a mangé. Le repas terminé, ils étaient tous assis en silence. Gordon écrit à l'humble lumière diffuse de la vieille lampe, nous pouvions à nouveau voir clairement. C'était un bon repas. Le lièvre avait goût de dinde et les navets étaient les plus doux que nous pouvions nous rappeler. Notre foyer, malgré tout ce qui manquait, nous semblait vraiment riche. Fin de citation. Mes frères et sœurs, exprimer de la reconnaissance est gentil et honorable. Agir avec reconnaissance est généreux et noble. Mais vivre avec de la reconnaissance constamment dans le cœur, c'est toucher les cieux. En terminant ce matin, je prie pour qu'en plus de notre reconnaissance pour tout le reste, nous puissions être le reflet de notre reconnaissance pour notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Son évangile glorieux apporte la réponse aux plus grandes questions de la vie. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Où va notre esprit quand nous mourons? Cet évangile apporte la lumière de la vérité divine aux gens qui vivent dans l'obscurité. Il nous a appris à prier. Il nous a appris à vivre. Il nous a appris à mourir. Sa vie est un legs d'amour. Il a guéri les malades. Il a élevé les opprimés. Il a sauvé les pécheurs. Pour finir, il est resté seul. Certains des apôtres ont douté. L'un d'eux l'a trahi. Les soldats romains ont percé son côté. La foule en colère a réclamé sa vie. Mais depuis la colline du Golgotha, ses paroles pleines de compassion résonnent. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui était cet homme de douleur, habitué à la souffrance? Qui est ce roi de gloire, ce Seigneur des Seigneurs? Il est notre Maître, il est notre Sauveur, il est le Fils de Dieu, il est l'auteur de notre salut. Il a dit, « Suivez-moi ». Il a enseigné, « Va, et toi, fais de même ». Il nous supplie et nous implore, « Gardez mes commandements, suivons-le, suivons son exemple, obéissons à sa parole. Ce faisant, nous lui ferons le don divin de la reconnaissance. » Ma prière sincère et fervente est que nous puissions, chacun, être le reflet de la vertu merveilleuse qu'est la reconnaissance. Puisse-t-elle imprégner notre âme maintenant et à jamais. Au nom sacré de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
Our dear and kind Heavenly Father.
Cher Père Céleste, plein de bonté, nous adressons à toi à la fin de cette session, le cœur rempli de reconnaissance. Nous sommes reconnaissants des nombreuses bénédictions que nous avons reçues de ta main, reconnaissants de l'évangile rétabli, de notre famille, des prophètes vivants. Et les apôtres, nous te prions de les bénir. À la fin de cette réunion, Père, veuille nous accorder ton esprit, nous accorder la volonté de faire ce qui est bien. C'est notre humble prière au nom de Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 180th semi-annual
general... Vous venez d'assister à une session de la 180e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.